Philosophie première par le père Philippe, Saint-Joseph, le 19 mars 85.
Troisième cours de la journée, j'espère que vous n'êtes pas trop mort. Et que nous pouvons entrer dans un domaine particulièrement difficile, la quantité. C'est à la fois ce qui est le plus facile à comprendre, parce qu'on sait qu'on pèse lourd. On n'a pas des ailes. Donc on comprend très bien, ça, on a une expérience grossière de la quantité, ce qu'il faut ne jamais oublier. Parce que quand vous commencez à avoir une subtilité de la quantité, c'est dangereux. N'idéalisez pas la quantité. Et on l'idéalise très facilement, c'est très curieux ça. Alors il faut avoir cette expérience toute simple. Nous sommes des êtres quantifiés. On s'en aperçoit très bien pour son voisin, et beaucoup moins bien pour soi. C'est curieux, ça. Parce qu'on a une expérience intérieure de la quantité, tandis que celle du voisin, elle est extérieure. Regardez-vous dans la glace, vous comprendrez que vous êtes un être quantitatif. Vous direz, comme c'est drôle, c'est que les autres me voient comme ça. Cette expérience de la quantité, vous voyez, c'est une connaissance extérieure. J'allais dire, hein, en comprenant bien, l'Esprit Saint ne se comprend que de l'intérieur et la quantité ne se comprend que de l'extérieur. C'est curieux, ça. Et je crois que ça, c'est très important de saisir que la quantité n'est saisie que de l'extérieur, vraiment. Elle est très spéciale, parce que c'est par la quantité que vous allez comprendre aussi le domaine de la matière. Quantité, et c'est le tremplin qui nous conduit à la matière. On ne peut pas se séparer de la matière, la quantité. Et elle se distingue de la matière, mais elle ne peut pas se séparer. Vous n'avez pas de quantité dans le domaine de l'esprit. Le domaine de l'esprit n'est pas quantitatif. Le domaine de l'amour spirituel n'est pas quantitatif. Le domaine de l'imagination, c'est la quantité idéalisée. Curieux. Quantité idéalisée, c'est tout le domaine de l'imagination. Alors là, vous commencez à comprendre de l'intérieur la quantité, mais d'une fausse intériorité. Parce que l'imagination, c'est une fausse intériorité. C'est une intériorité comparativement au monde extérieur, c'est bien évident. Je porte en moi ce domaine imaginatif, et ce domaine imaginatif me paraît intérieur. Vous voyez, ça, c'est la fausse intériorité. C'est comme le vraisemblable qui n'est pas le vrai. Il y a un vraisemblable de l'intériorité qui est le domaine de l'imaginaire. Et ce domaine de l'imaginaire est très important dans notre vie parce qu'il joue constamment. Il faut le dépasser pour découvrir la véritable intériorité. L'intériorité de l'intelligence, de l'esprit, vous dépassez ce domaine-là. Vous voyez, il y a quelque chose d'analogue entre le domaine de la quantité et le domaine de l'imaginaire, tout le domaine de l'imaginaire. Au fond, le domaine de l'imaginaire, c'est le domaine de la quantité faussement intériorisée, mais quand même intériorisée. Alors, j'ai donc deux connaissances de la quantité. Vous voyez bien, deux connaissances, j'ai comme deux approches de la quantité. J'ai l'approche par l'imaginaire et j'ai l'approche par l'extérieur. Par l'extérieur, nous l'avons constamment. Nous sentons bien que la quantité, c'est ce qui résiste à la lumière. La lumière est qualitative. C'est la qualité par excellence dans le monde visible. Nous l'avons vu. C'est la lumière qui fait l'unité de notre monde physique, une unité qualitative. Elle unifie les choses très très diverses en les respectant, parce que la qualité est respectueuse. Je ne sais pas si la quantité est respectueuse. Ça, il faudra se demander. Mais la qualité est respectueuse, la qualité respecte toujours. Plus vous êtes qualitatif, plus vous êtes respectueux les uns des autres. Quand vous ne vous respectez pas, ça prouve que vous n'êtes pas qualitatif et que vous êtes quantitatif. Alors c'est la massue qui vient de l'extérieur et qui vient tout aplatir. Alors la qualité, vous voyez, la qualité de la lumière, c'est quelque chose de très spécial. Nous la saisissons intuitivement, je crois. Il y a une intuition de la qualité. La qualité ne peut pas se mesurer. Et la lumière ne se mesure pas. Je me souviens avoir vu à Fribourg, dans un cirque, j'y allais de temps en temps, quand c'était des amis qui m'invitaient parce qu'il y avait des mimes particulièrement intéressants. Un grand cirque knique était extraordinaire. C'est du reste très intéressant au point de vue climat et atmosphère. C'est un climat très particulier. Alors il y avait le mime extraordinaire de capter la lumière. Il faisait ça admirablement. C'était un russe, du reste, qui faisait ça. Et qui avait capté la lumière avec son... Il avait pris son, tout simplement, comme prend un papillon, n'est-ce pas, et il a réussi à capter la lumière. Pour bien, c'était merveilleux pour voir négativement que la lumière ne se mesure pas. Elle ne se mesure pas. C'est extraordinaire. Parce que le papillon, vous pouvez le prendre parce qu'il y a un petit peu de quantité. Il n'y a pas de quantité dans la lumière. Vous direz, oui, les physiciens diront qu'il y a une quantité, c'est évident. Mais ce n'est pas la lumière, justement. Tout ce que vous mesurez de la lumière n'est pas la lumière. La lumière échappe complètement à la mesure. C'est le domaine où nous saisir. Oui, parce que vous mesurerez la lumière, oui. Physiquement, vous direz non, mais ce n'est pas la lumière, ça. C'est le support quantitatif de la lumière qui n'est justement pas la lumière. Et l'artiste saisit la lumière comme justement ce qui échappe. La quantité, au contraire, vous la mesurez. C'est le propre du domaine de la mesure. Vous n'avez aucune intuition de la quantité. Alors, ceux qui sont non intuitifs règnent sur la quantité. Il faut bien leur donner un règne, n'est-ce pas ? Alors, ils règnent sur la quantité, parce qu'ils sont non intuitifs. Les intuitifs demeurent dans la lumière. Parce que ça, c'est le domaine de l'intuition, par excellence. Et l'intuition esthétique, c'est le domaine de la lumière. Tandis que le domaine de la quantité, c'est ce qui résiste à la lumière. C'est curieux. La quantité, pour nous, est opaque. L'opacité de la quantité, qui vient de la matière, du reste. Hein. Pour nous, je parle pour nous, pas pour Dieu, c'est évident, pas dans un regard de sagesse. Mais pour nous, la quantité implique une opacité. Or, la lumière, c'est juste l'inverse. Ça rend tout lucide, ça donne une espèce d'aile. La lumière donne des ailes, tandis qu'au contraire, la quantité, c'est le poids, c'est l'opacité, c'est l'extériorité. Mais faites un tout petit peu une espèce d'expérience du vécu de la quantité. Il y a des moments où on vit ça très particulièrement. Les métros à minuit. C'est pas très qualitatif. Et vous avez des têtes devant vous qui sont vraiment très peu qualitatives. Ça dégouline, vous savez. Alors, c'est vraiment pas du tout qualitatif. C'est quelque chose de très, très particulier. C'est quantitatif, c'est un poids extraordinaire et vous sentez ce poids. Vous sentez que... L'autre jour, vraiment, je pensais au cours de la quantité, parce que je me dis, c'est extraordinaire cette expérience qu'on fait là, il était minuit, des gens avachis, venaient complètement, mais pesants, et pesant les uns sur les autres, sans dormir. Alors ça fait quelque chose de très lourd. Et ça, c'est la quantité. Le domaine de la quantité, c'est ce domaine-là. Il faut comprendre cela expérimentalement, comprendre que ce qu'est la quantité. Je crois qu'en définitive, on arriverait à préciser que la quantité, c'est le domaine du conditionnement. tout le conditionnement de notre connaissance, de notre affectivité, de notre vie humaine. Nous sommes des êtres conditionnés par la quantité. Alors, il n'y a pas que la quantité qui conditionne. Hein. Parce que, autrement, vous diriez, l'esprit, dans la mesure même où il est esprit, n'est plus conditionné. Le conditionnement va plus loin. Le conditionnement va s'enraciner dans la potentialité. Et radicalement, c'est ça. C'est que le domaine de la quantité, c'est le domaine, pour nous, de la potentialité. Je dis bien, pour nous, pour notre connaissance sensible. Pour notre connaissance sensible, c'est le domaine de la potentialité. La potentialité sera saisie par l'intelligence par rapport à l'acte. Vous voyez, comme la lumière, c'est l'acte sensible, la quantité, c'est le domaine de la potentialité au niveau sensible. Et c'est pour ça que la quantité nous conditionne d'une manière si forte. Quand on parle de situation limite, où on voit que comment le conditionnement empêche un être de respirer, c'est-à-dire de découvrir sa finalité, ce pourquoi il est. Quand le conditionnement devient tellement lourd qu'on n'arrive plus à découvrir sa finalité, c'est l'étouffement. Et ça étouffe. Une trop grande quantité de neige étouffe. Un tout petit peu de neige, c'est magnifique, c'est aérien. Tandis qu'une gros grande quantité de neige, vous voyez, c'est toujours la quantité. Même la neige, par la quantité, devient lourde, devient pesante. C'est très curieux. Alors que la neige, normalement, n'est pas comme ça. La quantité arrive même à faire que ça devient pesant. Et ça alourdit tout. Ça alourdit même l'atmosphère. C'est curieux. Quand il y en a trop, ça étouffe. Et c'est une très belle image du conditionnement trop grand qui vous met en situation limite. Et la situation limite, c'est justement lorsque la quantité étouffe. J'allais presque dire quand la quantité prend le primat du reste. Normalement, la quantité est toujours seconde. Alors ça, il me semble qu'on peut l'expérimenter. Je parle de tout simplement un aspect d'ordre, on dirait aujourd'hui d'ordre phénoménologique, c'est pas phénoménologique, c'est tout simplement les expériences que vous avez de la quantité. Et il faut d'abord regarder toutes ces expériences de la quantité. Alors vous pouvez les regarder d'une façon plus ou moins vécue, mais vous pouvez aussi saisir dans les différents aspects de la quantité. Quantité du côté affectif. La quantité du côté affectif, vous voyez, c'est le nombre. On est une communauté beaucoup trop nombreuse. C'est étouffant. Si on était 10, communauté de base, on s'était choisi, ce serait merveilleux. Vous voyez, on serait tous intelligents parce qu'on serait tous choisis les uns les autres. Tandis que quand le nombre, c'est la bêtise qui s'accumule. Parce que la bêtise, ça s'additionne. Tandis que l'intelligence ne s'additionne pas. Parce que la bêtise, c'est le conditionnement. Et c'est pour ça qu'il y a un nombre limite. Il ne faut pas dépasser, parce qu'après, ça ne va plus du tout. Et le vieux philosophe avait noté ça, qu'il y a un nombre limite pour maintenir une communauté politique. Et la cité, c'était justement ce nombre limite, au-delà du quoi il ne faut pas dépasser. Et dès qu'on a dépassé ce nombre, on est tombé alors dans quelque chose de tout à fait nouveau au point de vue politique, qui donne un éclatement. C'est très significatif, ça. La quantité trop grande du côté affectif peut arriver à étouffer l'affectivité. Situation limite. Par rapport à cette quantité trop forte, trop grande, qui étouffe. Alors on est vraiment comme quelqu'un qui ne peut plus respirer. Du côté intellectuel, on a tous compris cela. Quand on fait un petit travail, une thèse, Au début, on a une intuition très très nette. On dit, je vais faire ça. Puis on commence à faire l'information de tout ce qui a été écrit là-dessus. Alors vous revenez de la bibliothèque avec une pile énorme de bouquins et vous commencez à les lire. Au bout d'un certain temps, le conditionnement quantitatif des livres que vous devez lire fait que vous ne comprenez plus rien. Ça vous étouffe. Oui, le nombre, c'est de l'ordre de la quantité. Alors, du côté de l'intelligence et du côté du côté affectif, vous voyez ce poids qui peut arriver à être tel que ça enlève la liberté intérieure de la recherche de la vérité, de l'amour. Ceci, encore une fois, prenez-le du côté du nombre, prenez-le du côté du continu. C'est quelque chose qui alourdit aussi le mouvement. Tout mouvement implique, tout mouvement physique, implique une continuité. Mais il faut que cette continuité ne soit pas trop grande. Si la continuité est trop grande, alors à ce moment-là, vous voyez, vous avez une roue qui tourne extraordinairement lentement. C'est extraordinaire de voir comment la quantité ralentit. Ça freine. Conditionnement qui freine, qui empêche d'aller aussi vite qu'on le voudrait, puisque la vitesse est une qualité du mouvement. Il faut toujours dire ça aux gendarmes. La vitesse est une qualité du mouvement. En respectant les limites, mais ça fait rien, la vitesse est une qualité du mouvement. Alors, quand le mouvement est trop grand, c'est vrai, quand vous tirez un char derrière vous, il est trop gros, camion énorme, ça ne va plus. Il y a un poids, il y a une continuité. C'est curieux, hein, il faut réfléchir sur ces points de vue-là, qualité, quantité. Il est évident que pour notre expérience humaine, nous sommes en présence de deux types d'expériences totalement différentes. L'une est immédiate, l'autre est médiate. L'expérience de la qualité est immédiate. L'expérience de la quantité n'est jamais immédiate. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir d'intuition de la quantité. Pas possible. Vous saisissez la quantité toujours du côté de la limite et du conditionnement. Ce qui vous arrête. Ce qui est extérieur. Alors, c'est quelque chose qu'on ne saisit pas immédiatement. Alors il y a l'aspect qui serait très intéressant ici à voir et à rappeler au point de départ, c'est de comprendre les sensibles propres et les sensibles communs. Les sensibles propres, c'est vraiment la qualité. Les sensibles communs, c'est l'aspect quantitatif lié à la qualité. Ça reste de la qualité puisque ça reste sensible. Mais c'est la quantité qui l'emporte. Rappelez-vous les cinq sensibles communs. Le nombre, le continu, le point de vue du mouvement, le point de vue du repos et la figura. La figure. La figure prise, non pas la figure humaine, mais la physionomie. C'est le plus qualitatif et cependant c'est toujours lié à la quantité. Alors les sensibles communs ont ceci de remarquable, c'est qu'ils nous montrent qu'il y a quand même une connaissance sensible de la quantité par les sensibles communs. Mais cette connaissance des sensibles communs, comme le nom l'indique, ce sont des sensibles communs, donc qui sont connus à travers les diverses sensations. Ce n'est pas relatif à une seule. C'est relatif aux cinq sensations différentes. Et dans ces cinq sensations différentes, ce domaine des sensibles communs est toujours le conditionnement des sensibles propres. Et c'est pour ça qu'il est commun. S'il était sensible propre, il serait propre à tel sens. parce qu'il est le conditionnement, je le retrouve à travers tous les sensibles propres. Et il est ce qui alourdit les sensibles propres, et en même temps ce qui permet de les mesurer. C'est grâce aux sensibles communs que je peux mesurer les sensibles propres, du moins que je crois mesurer les sensibles propres. En réalité, je ne les mesure pas. Je crois. Je suis sous l'orientation, la disposition. Les sensibles communs, donc, me montrent comment il y a une connaissance sensible de la quantité, mais qui n'est jamais immédiate, qui est toujours par la qualité. Et c'est dans les sensibles communs où la quantité émerge le plus, où j'ai donc un certain contact avec la quantité. Ce contact avec la quantité me permet donc de saisir qu'il y a quelque chose qui conditionne toute ma vie sensible. Intellectuellement, je verrai que la quantité, elle, peut être mesurée. Je l'atteins par la mesure. Tout le conditionnement est atteint par la mesure. Et les qualités propres ne sont pas mesurables. Alors je vous disais tout à l'heure, première connaissance par le point de vue des sens. Deuxième connaissance par l'imaginaire. Les deux voies d'approche. L'imaginaire, notre imagination, nos rêves sont toujours quantitatifs. C'est pour ça que c'est toujours un peu gros. C'est pas un art. Ce sont des grimaces. Nos rêves sont d'ordre quantitatif. Les rêves, je vous l'ai déjà dit, les rêves, le fruit de l'imagination, mettent en premier lieu les sensibles communs avant les sensibles propres. C'est pour ça que ce n'est pas dans les rêves que vous découvrez la lumière, mais vous découvrez les ténèbres. Vous découvrez toujours une force d'abîme qui attire. Dans les rêves, c'est le point de vue du nombre, c'est le point de vue de la quantité, le poids. Vous êtes enlisé, surtout dans les cauchemars. Vous êtes enlisé. Ou vous allez avec une rapidité folle qui fait que vous ne pouvez plus rien voir du tout. Ça, c'est le propre des rêves. C'est du reste intéressant de voir ceux qui sont des rêves d'enlisement et des rêves de rapidité folle. Ça doit correspondre à certaines choses au point de vue de notre psychisme. Mais ce qui est sûr, c'est que les rêves, c'est les sensibles communs. C'est pour ça que les rêves nous donnent une fausse intuition de la quantité. Ça nous donne comme une espèce d'intériorité de la quantité, mais ce n'est pas une véritable intériorité. Le rêve, c'est ce domaine immanent, c'est dans l'immanence, hein. C'est l'immanence du sensible, l'imaginaire. Et dans l'imaginaire, les sensibles communs, donc l'aspect quantitatif domine. C'est très très important de comprendre ça, que l'aspect quantitatif domine dans les rêves. Et c'est pour ça que si vous prenez les rêves comme première source de connaissance, vous n'arriverez jamais à découvrir la finalité. Vous ne pouvez pas. La finalité est complètement perdue dans les rêves. C'est ce qui fait comprendre comment les rêves vous mettent dans l'angoisse. Les rêves nous angoissent toujours. Et quand les rêves continuent durant la journée, les rêves éveillés, c'est l'angoisse qui continue. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que d'être en face d'un domaine quantitatif, sans qualité. La qualité est présente, elle n'est pas totalement absente. Mais quand on est très fatigué, la quantité domine. Plus on est fatigué, plus on est dominé par la quantité. Oui, c'est pour ça que c'est vraiment la situation limite. Et la fatigue nous met de plus en plus dans la quantité. Un monde fatigué comme le nôtre, parce que nous sommes dans un monde fatigué, nous ne sommes pas nous, mais nous sommes dans un monde fatigué. Nous sommes dans un monde fatigué. Dans un monde fatigué comme le nôtre, fatigué par des quantités de raisons, du reste, hein, par la vitesse. Si la vitesse est la qualité du mouvement, c'est pas la qualité tout court, vous comprenez bien. Hein. Rechercher la vitesse pour la vitesse, c'est l'oubli de la qualité. Parce que vous allez tellement vite que vous ne voyez plus rien. Allez, ce serait très intéressant de voir l'expérience des cosmonautes à ce point de vue-là. Je crois que c'est minime au point de vue qualitatif. Ça fait beaucoup de bruit, mais c'est minime au point de vue qualitatif. Je crois qu'il n'y a pas un pouce de personnalité plus. On en fait des idoles, quantitativement. Il n'y a rien, point de vue qualité. Parce que je crois que c'est très très minime. Je ne l'ai pas fait, je ne peux pas le dire, mais je peux le dire d'avance. Parce que c'est la vitesse arrivée à un point de vue tel que la vitesse est recherchée pour la vitesse. C'est impossible autrement, du reste. Alors à ce moment-là, il n'y a plus le contact direct de la qualité. Donc l'imaginaire, quand il l'emporte sur tout, fait que on est dans un monde qui fatigue. Il n'y a rien de plus fatigant que l'imaginaire. Quand vous êtes pris dans le tourbillon de l'imaginaire, ça ne vous repose pas du tout. Qu'est-ce qui vous repose? C'est de regarder la réalité sensible. Regardez les petites personnages. Ça, c'est très reposant. À travers la neige, de voir des petites fleurs qui poussent. La victoire de la qualité sur la quantité. Et c'est toujours très, très beau de voir la victoire de la qualité sur la quantité. C'est une des choses les plus étonnantes de voir ça. De voir tout d'un coup, exactement comme, vous voyez, quand il y a une émergence en nous d'un amour, d'un véritable amour. C'est la victoire de la qualité sur la quantité. Surtout quand on est pris par une espèce de situation limite, tout d'un coup, il y a une petite étincelle, une petite lumière. Ça, c'est la victoire de la qualité sur la quantité. Alors, dans le domaine de l'imaginaire, il n'y a jamais de victoire. L'imaginaire est terrible. L'imaginaire supprime toute victoire de la qualité sur la quantité. Je prends de l'imaginaire au niveau propre, hein, je ne parle pas de l'inspiration ou de l'aspect de la création, c'est l'intelligence dans l'imaginaire, c'est très différent. Alors là, c'est qualitatif. Tandis que l'imaginaire pris en lui-même, et quand l'imaginaire domine, c'est un domaine où, de fait, on est en présence d'une quantité imaginative, sous ce point de vue-là, spiritualisée, un peu spiritualisé, mais qui demeure quantitative. Le domaine de la quantité spiritualisée par l'imaginaire, qui garde toute sa pesanteur, mais qui peut apparaître au point de départ comme séduisante. Il y a une séduction des rêves. Toutes les tentations sont quantitatives. Toujours imaginative, toujours. Il n'y a pas de tentation qualitative, c'est impossible. Toutes les séductions, c'est l'équilibre entre la quantité et la qualité qui fait le primat de la quantité. Quand la qualité domine, c'est l'acte qui domine, c'est la finalité qui domine. Il n'y a pas de tentation, c'est la voie d'issue. Tandis qu'au contraire, vous savez, le demi-sommeil, hein, et le démon veille toujours sur le demi-sommeil. Et le demi-sommeil, c'est justement le domaine de la séduction. On se laisse prendre. C'est pour ça que quand on est fatigué, ce domaine est plus grand que d'habitude, et alors la tentation est plus forte. Ayant jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il s'approcha de lui, le tentateur, quand il est fatigué. Mais Jésus était suffisamment qualitatif pour ne pas se laisser prendre par ce jeu de la quantité. Et regardez bien, les trois tentations, elles sont quantitatives. C'est très curieux. Je peux le regarder, je peux regarder philosophiquement les trois tentations et voir que c'est la quantité qui domine et que la séduction provient de ce primat de la quantité sur la qualité. Parce que toute séduction, toute tentation, toute séduction nous fait tourner le dos à la finalité. Alors ce serait très intéressant de voir ici, au point de vue philosophique, hein, c'est toujours les préambules, hein, c'est pour éveiller un peu, vous réveiller un peu de l'imaginaire et vous faire comprendre ce que c'est que cet imaginaire, et faire comprendre que c'est quand même un domaine extraordinairement intéressant. Parce que c'est le domaine du conditionnement humain, c'est donc le domaine des séductions, c'est donc le domaine de toutes les propagandes. Toutes les propagandes sont quantitatives. Toutes. C'est pas l'art. L'art n'est pas une propagande. C'est impossible. Tandis que la propagande est quantitative. C'est le primat de la quantité. C'est imaginatif. Et du reste, c'est normal, parce que ça vous conduit alors à la cause exemplaire. Ce serait intéressant de voir comment, dans la cause exemplaire, l'imaginaire est présent, à la différence de la causalité finale, dans laquelle il n'y a plus que l'acte. Toute causalité exemplaire. Alors, il y a la causalité exemplaire artistique, que l'artiste porte en lui, qui provient de la naissance de l'idée. Et l'idée, nous avons vu, c'est l'intelligence liée à l'imaginaire. L'intelligence liée à l'imaginaire, c'est la victoire de la lumière sur le point de vue quantitatif. Et c'est ce contraste des deux qui est toujours à l'origine de toute inspiration. Toujours, les deux. Il faut l'imaginaire, il faut l'intelligence. Il faut l'intelligence. Et c'est le lien entre les deux qui donne ce domaine toujours de renouveau dans l'inspiration. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Parce que c'est toujours la victoire de l'intelligence sur le domaine des ténèbres. La victoire de la lumière sur les ténèbres. Et c'est tout le temps ça qu'on retrouve. Dans toute intuition et dans toute inspiration. Mais quand l'inspiration n'est plus une véritable inspiration, quand c'est une inspiration qu'on exploite pour la propagande, ce n'est plus une véritable inspiration. Elle est là, annexée à l'efficacité. Et quand elle est annexée à l'efficacité, c'est encore le domaine quantitatif qui l'emporte. Et qui, de fait, au bout d'un certain temps, fait supprimer le point de vue de la qualité. Alors, dans la cause exemplaire, il y a une cause exemplaire qualitative, il y a une cause exemplaire quantitative. Je crois qu'il y a les deux. Et c'est ça qui serait intéressant à déterminer. La cause exemplaire qualitative, elle provient de l'inspiration. C'est l'idée. L'idée est qualitative. Avant tout. C'est dans ce sens-là qu'elle peut diriger l'artiste. Mais il peut y avoir une cause exemplaire qui n'est plus qualitative et qui revient quantitative, qui est à l'origine de la série. Les choses qu'on multiplie. Les choses qui impliquent justement quelque chose qui n'est plus vraiment de l'ordre de l'inspiration. C'est la répétition. La répétition implique cela. Et c'est pour ça que c'est fatigant. C'est la cause exemplaire qui, de fait, n'est plus une véritable cause exemplaire, et qui commande tout un autre domaine, le domaine quantitatif. Parce que ce n'est pas commode dans la cause exemplaire de faire le partage. C'est peut-être à cause de ça que certains ne voient plus la distinction entre qualité et quantité quand la cause exemplaire domine. Quand la cause exemplaire domine, je crois que très facilement dans l'immanence de la cause exemplaire, l'aspect de la qualité et de la quantité s'identifie. Mais c'est une des choses auxquelles nous devons être très attentifs dans notre monde d'aujourd'hui, si nous maintenant nous essayons de voir un peu les diverses manières dont la quantité et la qualité sont regardées. Je crois qu'on peut dire que d'une façon générale, dans toute philosophie réaliste, toute philosophie qui demeure réaliste, le domaine de la qualité et de la quantité sont toujours différenciés. toujours. Mais dans un domaine d'idéalisme dialectique. Donc quand l'idéalisme va jusqu'au bout de ses richesses d'idéalisme, la quantité et la qualité ne sont plus distinctes. On passe de l'une à l'autre. Et c'est, je crois, au point de vue de la vie de l'intelligence, la chose la plus terrible. C'est peut-être qu'à ce moment-là, qu'entre intellectus et ratio, on ne fait plus la distinction. Et on ne peut plus faire la distinction. Alors, on voit comment on pourrait passer, du moins on prétend passer, de la quantité à la qualité. Expérimentalement, il y a quelque chose de juste. Je vous disais tout à l'heure, quand la vitesse est trop grande, on ne voit plus les qualités. Quand la vitesse est recherchée pour elle-même, on ne voit plus la qualité. C'est vrai, elle est comme absorbée. Il y a comme une perte de la qualité. Mais ça ne veut pas dire que la quantité se transforme en qualité. Ça veut dire au contraire que la quantité est meurtrière de la qualité. Une quantité trop grande, une quantité recherchée pour elle-même, tue la qualité. Le travail en série, où vous ne cherchez plus que l'efficacité, tue la qualité. On sait très bien. Le vrai travailleur est un travailleur qui fait des choses qualitatives. Et son travail est qualitatif. Le travailleur qui n'est plus qu'un intermédiaire, qui n'est plus qu'un manœuvre, ne cherche plus jamais la qualité. Il cherche toujours à réaliser le plus de choses en le moins de temps possible. Et donc c'est la vitesse qui vient supprimer la qualité. Alors, que la quantité puisse supprimer la qualité, c'est bien évident. C'est la situation limite, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais jamais la quantité ne produira la qualité. Nous ne pourrons jamais. Nous pouvons comprendre les dégradations de la qualité en quantité, mais nous ne pouvons pas comprendre le passage de la quantité à la qualité. Vous voyez, ça c'est peut-être, je dis peut-être, la grande objection à l'évolution. Peut-être l'argument majeur. Pouvons-nous passer de la quantité à la qualité? Il faut se poser la question, mais loyalement, il faut se poser la question et essayer de comprendre si on peut vraiment passer de la quantité à la qualité. Si on peut passer de la quantité à la qualité, l'évolution est possible. Si on ne peut pas passer de la qualité à la quantité, de la quantité à la qualité, il y a un mur, il y a un saut. Qu'on puisse passer de la qualité à la quantité, c'est la dégradation. C'est la corruptibilité. Ça, on est tous d'accord. On peut passer de l'un à l'autre quand il y a une fatigue trop grande. Quand la finalité disparaît. Alors là, on peut très bien. Mais le domaine de l'autre, c'est très délicat. Alors ça, c'est un des problèmes attachés, vous voyez, au domaine de la distinction entre qualité et quantité. Donc ceci, c'est pour vous éveiller. Il faudrait maintenant, nous n'aurons pas le temps de le faire entièrement, parce que après Pâques, je crois qu'il faut consacrer tout son temps à l'acte et à la puissance, mais je consacrerai peut-être, quelques cours quand même sur la quantité, s'il y a des amateurs de la quantité. Il faudrait maintenant regarder attentivement, dans une topique historique, vous pouvez le faire, en regardant comment la quantité a été regardée par les philosophes. Je crois qu'on peut dire que Aristote est le premier à considérer la quantité pour elle-même. Je crois. Du point de vue logique et du point de vue philosophique. Car il veut connaître philosophiquement ce qui est mu. Le corps organique du vivant. Et il veut comprendre ce qu'est la quantité. Au fond, dans les catégories, quand il met dans les catégories la quantité, il veut nous faire comprendre ce que ça représente, la quantité. Mais ça, au point de vue pré-philosophique, puisque les catégories sont pré-philosophiques. Mais vous retrouvez aussi dans le domaine de la philosophie de la nature, tout point de vue du continu. Qu'est-ce que c'est que le mouvement? Et vous ne pouvez pas comprendre le mouvement sans la quantité. Tous les mouvements physiques impliquent la quantité. Et puis en philosophie première, Aristote n'a pas donné un traité de la quantité, comme il n'a pas donné un traité de la qualité. Je crois que Aristote serait après Hegel, il le ferait. Le philosophe doit sauver la qualité. Et en sauvant la qualité, il sauve l'homme. Parce que s'il n'y a plus de qualité, je crois qu'on ne peut plus parler de personne. On ne parle plus qu'un individu et un agglomérat d'individus et de la masse. Ça, c'est quantitatif. Si on ne sauve pas le domaine de la qualité, vous ne pouvez plus sauver la personne. C'est lié à cela. C'est assez extraordinaire quand on essaie de comprendre justement jusqu'au bout. C'est vraiment la qualité qui nous montre la possibilité de comprendre ce que c'est que la personne. C'est pour ça qu'il est très important, vous voyez, au point de vue philosophique, après l'hégélianisme, de comprendre le domaine de la quantité. Non pas tellement que ça nous apporte beaucoup, mais c'est pour ne pas tomber dans l'erreur dialectique du passage de la quantité à la qualité. Une fois qu'on a compris ce que c'était que la quantité, je ne dis pas qu'on a horreur de la quantité, non, non. On n'a pas horreur de la quantité. La quantité est nécessaire dans notre monde physique. Elle est nécessaire pour l'homme, pour notre corps. Elle est nécessaire. On respecte cette quantité. Et on respecte cette quantité parce que, de fait, elle joue un rôle très important dans notre monde. Il n'y a pas à la mépriser. Il n'y a pas à la voir en horreur. Il faut la mettre à sa place. C'est une place très humble. Je ne veux pas dire que l'humilité est quantité, hein. Mais c'est une place très humble. C'est une place très humble, parce que c'est une place toujours secondaire. Et la quantité reste intéressante à ce point de vue-là. Alors il faut la connaître pour la situer exactement. Pour la situer dans notre vie. Pour la situer dans le monde physique. Pour comprendre ce que ça représente. Toutes les transformations de notre univers se font autour de la quantité. C'est par la quantité que je peux transformer notre univers. Donc c'est très important. C'est pas par la qualité. Sauver la qualité, c'est accepter d'être celui qui est le serviteur de la qualité qui veut la sauver. Tandis que la quantité, je la transforme. C'est le domaine de toutes les transformations. Alors, Aristote le premier a saisi ce qu'était la quantité. Dans les catégories, Aristote commence par affirmer que la quantité est soit discrète, comme par exemple le nombre, le discours, soit continue, comme la ligne, la surface, le solide, le temps et le lieu. Pour lui, c'est une distinction au niveau des catégories. C'est une distinction fondamentale. C'est très curieux, ça. La quantité, tout de suite, se donne à nous au niveau des catégories. Au niveau philosophique, on verra l'unité de la quantité. Que la quantité, qu'elle soit continue, qu'elle soit discontinue, c'est toujours de la quantité. Selon deux modalités totalement différentes. Et ce n'est pas deux quantités différentes. Non, c'est la même quantité selon deux modalités différentes. Alors, c'est très intéressant de voir que tout de suite, dans le contact direct qu'on a avec la réalité, on peut dire que la quantité apparaît discrète, continue. Il y a comme deux orientations tout à fait différentes. Il faudra se demander pourquoi, philosophiquement. Pourquoi, de fait, dans les catégories, la distinction discret et continu apparaît comme majeure. Je vous l'ai montré tout à l'heure, dans nos rêves, dans nos expériences, quantité continue, continuité discrète, apparaît comme deux choses irréductibles. C'est toujours de la quantité, mais c'est irréductible.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Saint-Marie.